Gilets jaunes, carbone et ISF, le piège social nativiste en France. Fort naturellement, il existe plusieurs récits contradictoires permettant de décrire les recompositions en cours et les développements à venir. Le nouveau bloc électoral formé autour de Macron et des partis LREM et Modem, au centre du jeu politique, peut se voir comme une tentative de constituer un bloc bourgeois permettant de réconcilier la gauche brahmane et la droite marchande. De fait, d'un point de vue sociologique, il est peu contestable que cette coalition regroupe à la fois les plus diplômés, les plus hauts revenus et les plus hauts patrimoines, issus à la fois du centre-gauche et du centre-droit. Aux yeux des acteurs et des électeurs concernés, cette nouvelle coalition se présente volontiers comme celle des progressistes. Il s'agit de s'opposer aux nationalistes et plus généralement aux archaïques de tout poil, ceux qui refusent à la fois la mondialisation et l'Europe et dont la hargne et les passions tristes conduiraient à s'en prendre aussi bien aux immigrés qu'aux entrepreneurs, ces derniers étant sottement caricaturés par les archaïques en riches à qui il faudrait demander des comptes alors même qu'ils servent avec application le bien commun. Il est intéressant de voir que cette nouvelle grille d'analyse du conflit politique fondée sur l'opposition entre progressistes et nationalistes est également promue par le camp nativiste, qui se contente d'en retourner les termes. Pour Marine Le Pen et le Front National, le nouveau conflit oppose les globalistes aux patriotes. Les premiers seraient les élites nomades et sans attache, toujours prêtes à mettre les salariés sous pression et à prendre à leur service de nouvelles vagues d'immigrés à bon marché. Alors que les patriotes défendraient les intérêts des classes populaires face aux menaces de la mondialisation hyper-capitaliste et métissée, sans frontières et sans patrie. Le problème est que cette vision binaire du conflit politique qui arrange bien ceux qui se mettent ainsi au centre du jeu est à la fois fausse et dangereuse. Elle est fausse car la réalité du conflit politico-idéologique actuel en France, comme dans la plupart des pays, est profondément multidimensionnelle. En particulier, l'électorat comprend un bloc internationaliste égalitaire dont la taille et les contours peuvent varier suivant les contextes, mais qui se caractérise par le fait qu'il est le plus attaché à la fois à l'internationalisme et à l'égalité, en particulier à la défense des travailleurs immigrés de toutes origines et à la redistribution des richesses entre les riches et les pauvres. La question de savoir dans quelle mesure ce camp parviendra à former une majorité autour de lui est une question ouverte en ce début de XXIe siècle, comme à toutes les époques. Sa réponse dépend notamment de la capacité à développer une plateforme que l'on peut qualifier de social-fédéraliste, c'est-à-dire fondée sur l'idée que la redistribution et l'internationalisme peuvent se renforcer mutuellement. Mais ignorer cette possibilité et s'imaginer que le conflit politique opposerait désormais les progressistes aux nationalistes ou les globalistes aux patriotes reviendrait à oublier que l'électorat est souvent divisé en quatre quarts, ou parfois en trois tiers, comme en France en 2017-2019. Cependant, une telle structure peut naturellement donner lieu à de multiples trajectoires et bifurcations possibles, sans compter que les frontières entre ces quarts sont poreuses et changeantes. Surtout, la simplification binaire sur le mode progressiste-nationaliste ou globaliste-patriote est dangereuse, car elle revient à placer l'idéologie nativiste et son cortège de violences potentielles comme seule alternative possible. Cette stratégie rhétorique vise certes à maintenir éternellement au pouvoir les progressistes, mais en réalité, elle court le risque de précipiter le succès électoral des nationalistes, surtout si ces derniers parviennent à développer une forme de social-nativisme, c'est-à-dire une idéologie conjuguant des objectifs sociaux et égalitaires au sein des natifs et des formes violentes d'exclusion vis-à-vis des non-natifs, à la façon du Parti démocrate aux États-Unis à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Une telle évolution est déjà en cours dans l'idéologie du Front National depuis plusieurs décennies, et le risque est que les événements de 2017-2019, et en particulier la crise des Gilets jaunes, accélèrent cette transformation. Dans les années 1980-1990, le FN avait déjà un discours violemment anti-immigré, mais le reste de son idéologie était relativement élitiste sur le plan social et économique, ce qui limitait sa dangerosité. En particulier, le parti gardait encore la trace d'un vieux fonds poujadiste anti-impôt et continuait à la fin des années 1980 de réclamer par exemple la suppression complète de l'impôt sur le revenu. Puis, le FN a commencé à amorcer, à partir des années 1990 et 2000, un tournant social, en prenant de plus en plus la défense des bas salaires et du système de protection sociale, à partir du moment où ce dernier était réservé aux natifs. Ce tournant, à un moment où la gauche brahmane donnait l'impression d'abandonner les classes populaires, a contribué à élargir et à diversifier la base électorale du parti. En 2017-2019, le FN put ainsi demander le maintien, puis le rétablissement de l'ISF, alors même qu'il défendait lui-même la suppression de toute forme d'impôt progressif quelques décennies auparavant. Il ne faut certes pas surestimer la sincérité et la profondeur de cette conversion sociale et fiscale, qui doit beaucoup à l'opportunisme. Au fond, le discours programmatique du FN repose en premier lieu sur l'exclusion des immigrés et les bénéfices considérables qu'il espère en retirer. Et il est probable que le repli national qu'il préconise ne ferait qu'exacerber la tendance au dumping fiscal en faveur des plus riches, comme cela a pu se voir aux États-Unis depuis l'arrivée de Trump au pouvoir. Nous y reviendrons. Il reste que ce discours peut s'avérer payant et que le risque d'un piège social nativiste, attisé par la politique pro-riche sans complexe menée par le gouvernement Macron, correspond à une réalité en France. Le fait que les augmentations de la taxe carbone mises en place en 2017-2018 et finalement annulées en 2019 ont de facto servi à financer la suppression de l'ISF et d'autres impôts en faveur des plus riches, et non pas la transition écologique, constitue de ce point de vue le scénario idéal pour valider les accusations d'hypocrisie traditionnellement adressées par les nativistes aux globalistes. L'Europe et les classes populaires, la construction d'un divorce. Les orientations mises en place depuis 2017, et en particulier la façon dont le thème de l'Europe et de la construction européenne a été instrumentalisé pour justifier les baisses d'impôts aux plus riches, font également courir le risque que se constitue un front anti-européen de plus en plus fort parmi les classes moyennes et populaires en France au cours des années à venir. Cette instrumentalisation de l'Europe au bénéfice des plus aisés n'est certes pas nouvelle. Nous avons déjà largement évoqué comment la mise en place de la libéralisation complète des flux de capitaux, sans régulation fiscale commune et sans échange automatique d'informations sur les actifs financiers détenus par les uns et les autres, avait contribué depuis les années 1980-1990 à l'escalade de la concurrence fiscale au profit des plus mobiles. Cette perception d'une Union européenne fondée sur la concurrence de tous contre tous et fonctionnant avant tout au service des classes socialement les plus favorisées contribue d'ailleurs à expliquer la désaffection populaire vis-à-vis de la construction européenne, telle qu'elle s'est notamment exprimée en France lors du référendum sur le traité de Maastricht en 1992, puis de nouveau avec le référendum sur le traité constitutionnel européen, TCE, en 2005. Ces deux consultations sont importantes, car elles permettent de prendre conscience de l'ampleur du divorce. Lors du référendum de 1992, qui avait pour objet principal la mise en place de l'euro, le « oui » l'emporta d'une courte tête, avec 51% contre 49%, grâce notamment à une mobilisation de dernière minute du président socialiste, après que plusieurs sondages avaient annoncé la victoire du « non ». Mais le fait est que cette victoire fut acquise uniquement grâce aux catégories sociales les plus favorisées. Les données disponibles, issues elles aussi des enquêtes post-électorales, montrent sans ambiguïté que les 30% des électeurs disposant des diplômes, des revenus et des patrimoines les plus élevés votèrent massivement pour le « oui », alors que les 60% du bas votèrent nettement pour le « non ». Voir graphique 14.20. Le référendum de 2005 visait quant à lui à regrouper les différents traités européens dans un traité à valeur constitutionnelle. Le TCE comportait peu d'innovations substantielles et aucune avancée sociale. Il revenait à sanctuariser le fonctionnement de l'Union européenne autour des principes de la concurrence libre et non faussée, de la libre circulation des capitaux, des biens et des personnes, et du maintien de la règle de l'unanimité en matière fiscale, qui obtenait ainsi une consécration constitutionnelle. Il fut sèchement rejeté par les électeurs français, avec 55% de non contre 45% de oui. Si l'on examine les données disponibles, on constate que seuls les 20% et surtout les 10% des diplômes, des revenus et des patrimoines les plus élevés ont voté oui en 2005, alors que les 80% les moins favorisés soutenaient massivement le non. Ces deux votes, de 1992 et 2005, sont révélateurs. Car la structure très nettement classiste des suffrages exprimés, quelle que soit la dimension de stratification sociale considérée, diplôme, revenu, patrimoine, était différente de celle des blocs gauche-droite, tels qu'ils existaient encore à l'époque. Ce sont les classes aisées du centre-gauche et du centre-droit, venues de la gauche brahmane et de la droite marchande, qui se sont de facto rassemblées pour faire avancer la construction européenne, bien avant la tentative de constitution d'une telle alliance au niveau politique, sous la forme du bloc bourgeois de 2017. Comment expliquer un tel divorce entre les classes populaires, au sens le plus large, et la construction européenne? Il me semble que l'explication la plus plausible est la perception, en grande partie justifiée, que le grand marché unique européen bénéficie avant tout aux acteurs économiques les plus puissants et aux groupes sociaux les plus favorisés. De fait, il est peu contestable que la concurrence fiscale entre pays européens conduit ces derniers à déformer la structure de leurs impôts au bénéfice des acteurs les plus mobiles et au détriment des plus modestes. L'idée selon laquelle les groupes sociaux plus modestes seraient spontanément et irrationnellement nationalistes, voire racistes, hypothèse bien commode permettant aux élites progressistes de justifier leur mission civilisatrice, ne résiste guère à l'analyse. Par exemple, nous disposons dans l'enquête post-électorale menée en 1958 de questions au sujet du maintien de la domination coloniale française en Algérie et en Afrique de l'Ouest. Or, on constate dans les deux cas que ce sont les ouvriers qui sont les plus favorables à l'indépendance immédiate, suivant d'ailleurs en cela l'internationalisme égalitaire défendu à l'époque par le mouvement communiste et socialiste. Les groupes les plus diplômés sont dans une position d'attente, alors que les indépendants sont les plus favorables au maintien de l'Algérie française et de la tutelle coloniale en Afrique, peut-être parce qu'ils s'identifient davantage au sort des colons rapatriés et de leurs biens. Le nationalisme des pauvres n'est pas plus spontané que celui des riches. Il se construit et se déconstruit historiquement, socialement et politiquement. Toujours est-il qu'après des votes aussi clivés socialement, et surtout après une telle défaite du « oui » lors du référendum de 2005, on aurait pu penser que cela allait conduire à un changement d'orientation politique en France et en Europe. De fait, tant que l'Union européenne n'aura pas été mise au service d'une politique de justice sociale et fiscale claire et visible, comme un impôt européen sur les plus hauts revenus et les patrimoines, on voit mal ce qui pourrait mettre fin à ce violent divorce entre les classes populaires et la construction européenne. Je précise avoir voté pour le oui en 1992, mon premier vote, et en 2005, comme ma classe de diplôme, dans l'espoir que l'Europe sociale et fiscale finirait par venir. Cette posture d'attente béate me semble toutefois de plus en plus dangereuse et difficile à tenir. De l'instrumentalisation néopropriétariste de l'Europe. Malheureusement, aucune réorientation de cette nature n'a eu lieu. Les principales dispositions contenues dans le traité constitutionnel européen de 2005 ont été reprises dans le traité de Lisbonne en 2007 et qui a été ratifié par la voie parlementaire afin d'éviter l'écueil référendaire. Certes, le front du « non » n'apportait pas une proposition alternative précise qui aurait pu servir de base à l'adoption d'un autre texte. Il n'en reste pas moins qu'il est dangereux de choisir d'ignorer à ce point les insatisfactions exprimées dans les urnes et de se refuser à leur donner des débouchés politiques constructifs, comme la possibilité d'une fiscalité juste. Lors des élections françaises de 2012, le candidat socialiste avait évoqué la possibilité de renégocier le nouveau traité budgétaire, TSCG, négocié quelques mois auparavant et qui aboutissait à un durcissement considérable des règles en matière de déficit. Mais, faute de propositions précises, cela n'aboutit sur rien. Les évolutions observées au cours des dernières années ne font qu'aggraver le gouffre entre l'Union européenne et les classes populaires. En particulier, le pouvoir politique issu des élections françaises de 2017 se prétend pro-européen, tout en instrumentalisant une fois de plus la construction européenne au service d'une politique pro-riche d'une façon particulièrement grossière. Les deux mesures fiscales centrales votées dès l'automne 2017, à savoir la transformation de l'ISF, impôt sur la fortune, en IFI, impôt sur la fortune immobilière, et la mise en place d'un taux d'imposition proportionnel sur les revenus du capital, en lieu et place de l'impôt progressif de droit commun applicable aux salaires et aux autres revenus, ont été adoptées dans une large mesure au nom de la concurrence européenne. Ces mesures ont certes également été justifiées au nom de l'idéologie des premiers de cordée, selon laquelle l'ensemble de la population bénéficierait des allègements fiscaux accordés aux plus riches, ici considérés comme les plus méritants et les plus utiles. Proche en esprit de l'idéologie du « trickle-down », ruissellement, utilisé par Ronald Reagan dans les années 1980, et de celle des « job creators », développé par Donald Trump et les républicains états-uniens des années 2010, on peut toutefois douter que l'idéologie des premiers de cordée aurait pu conduire seule à ces mesures fiscales dans le contexte français de 2017, très différent du contexte états-unien sur ces questions, sans l'argument de la concurrence fiscale européenne. Il faut ajouter à cela que malgré les discours du pouvoir en place, ces deux mesures sont fortement impopulaires en France. En particulier, toutes les enquêtes d'opinion menées en 2018-2019 montrent que les personnes interrogées sont très majoritairement favorables au rétablissement de l'ISF. En refusant de répondre à cette demande de justice fiscale et en maintenant ses choix fiscaux, le gouvernement prend donc clairement et explicitement le risque d'instrumentaliser l'Europe et d'exacerber les sentiments négatifs face au type d'intégration européenne qu'il défend. S'agissant de l'ISF, un autre argument a aussi été évoqué selon lequel les actifs financiers conduiraient par leur nature à davantage de création d'emplois que les actifs immobiliers. Le problème est que cette justification n'a clairement aucun sens. Un portefeuille financier investi aux quatre coins du monde ne crée aucun emploi en France, alors que la construction d'une maison ou d'un immeuble en crée immédiatement. La justification évoquée n'aurait d'ailleurs pas plus de sens si les deux placements avaient lieu en France. Il n'existe en règle générale aucun lien entre la forme juridique d'un placement, financier ou immobilier, et l'efficacité sociale ou économique de l'investissement en question. En revanche, il existe un lien très clair avec le montant de la fortune. La quasi-totalité des patrimoines les plus importants prend la forme d'actifs financiers, si bien que l'exonération de ces derniers a surtout permis une suppression quasi complète de l'ISF pour les plus riches, sans l'assumer clairement et en feignant de croire que cela découlait d'un objectif d'investissement et de création d'emplois. En réalité, la seule justification possible pour l'exonération des portefeuilles financiers est d'une toute autre nature, et c'est d'ailleurs cette seconde justification qui a été principalement utilisée. Il s'agit de l'idée selon laquelle il serait rigoureusement impossible de mettre à contribution les actifs financiers, car ces derniers auraient la possibilité de disparaître et de se soustraire à l'impôt comme par magie. On aurait donc d'autre choix que d'avoir un impôt régressif sur le patrimoine, mettant uniquement à contribution le patrimoine immobilier des classes moyennes et exonérant les plus riches détenteurs d'actifs financiers qu'il serait par hypothèse impossible d'imposer. Une telle assertion, profondément nihiliste et pessimiste quant à notre capacité collective à construire des institutions et des règles justes, pose deux problèmes majeurs. Tout d'abord, l'idée selon laquelle les actifs financiers auraient massivement fui la France pour échapper à l'ISF ne repose sur aucune base sérieuse. Malgré l'administration défaillante de cet impôt, les nombres et les montants des patrimoines déclarés ont fortement progressé depuis le début des années 1990. En particulier, les patrimoines financiers déclarés dans les plus hautes tranches ont progressé encore plus fortement que les patrimoines immobiliers, qui ont eux-mêmes progressé beaucoup plus vite que le produit intérieur brut et les revenus au cours des décennies récentes. Au total, les recettes de l'ISF ont été multipliées par plus de 4 entre 1990 et 2018, alors que le PIB nominal n'a fait que doubler. Cette progression reflète certes un phénomène général de remontée du niveau et de la concentration des patrimoines, et notamment des plus hauts portefeuilles financiers, observés sur le plan mondial depuis les années 1980-1990. Il reste que l'hypothèse d'une fuite massive entraînée par l'ISF ne résiste pas à l'analyse. Ensuite, et surtout, même en supposant que la fuite des actifs financiers hors de France soit avérée, ce qui n'est absolument pas le cas, la conséquence logique est que le gouvernement français devrait s'ingénier à mettre fin à de telles pratiques, sauf à supposer que rien ne peut être fait en ce sens. Or, l'idée selon laquelle il serait impossible de faire quoi que ce soit pour améliorer le contrôle et l'enregistrement des actifs financiers ne repose sur rien. Les intermédiaires financiers sont légalement tenus de transmettre automatiquement au fisc les informations sur les intérêts et dividendes versés aux uns et aux autres. Si le système de déclaration pré-rempli applicable pour les revenus n'a jamais été étendu aux déclarations de patrimoine, et en particulier aux actifs financiers détenus dans les banques françaises, cela relève d'un choix politique et en aucune façon d'une impossibilité technique. Rien n'interdit d'appliquer ce système immédiatement au niveau français, ce qui aurait déjà permis un bien meilleur recouvrement de l'ISF et des recettes encore plus fortement en hausse, tout en œuvrant avec énergie pour son extension au niveau international. Il suffit pour cela de dénoncer et de réécrire les traités organisant la libre circulation des capitaux en imposant une obligation de transmission automatique d'informations aux administrations fiscales, comme l'ont par exemple imposé les États-Unis en 2010 à la Suisse et aux autres pays. Pour ce qui concerne les actifs résidentiels et professionnels localisés en France, et plus généralement toutes les entreprises qui ont une activité ou un intérêt économique en France, il n'appartient qu'au gouvernement français de décider que leur propriétaire soit systématiquement et immédiatement enregistré auprès de l'administration fiscale, de façon à pouvoir faire figurer automatiquement ces informations sur les déclarations pré-remplies et améliorer ainsi le recouvrement de l'impôt. Le gouvernement français ne s'est lancé dans aucune de ces réformes, démontrant assez clairement que son objectif n'est pas celui-là, pour des raisons qui sont avant tout politiques et idéologiques, même si elles sont dissimulées derrière des considérations techniques, ce qui ne peut qu'exacerber la suspicion. Rappelons enfin que de multiples impôts lourdement progressifs sur les plus hauts patrimoines financiers ont été appliqués au XXe siècle, par exemple en Allemagne, au Japon et dans de nombreux autres pays à l'issue du Second Conflit mondial, ce qui permit d'alléger les dettes publiques et de reconstituer des marges de manœuvre pour investir dans l'avenir. Tout cela se déroula à une époque où les administrations ne disposaient pas des technologies de l'information existant actuellement. Expliquer aujourd'hui qu'il n'existe d'autre choix que d'exonérer les plus hauts patrimoines financiers, car ces derniers refusent de payer l'impôt et qu'il est trop difficile de les contraindre d'accepter, au moment où la montée des inégalités et le changement climatique posent des défis planétaires redoutables, relève d'une forme d'inconscience et sans doute aussi d'ignorance historique. Quoi qu'il en soit, cette façon d'instrumentaliser l'Europe, la concurrence européenne et les traités européens et internationaux pour mener une politique biaisée en faveur des plus favorisés est extrêmement dangereuse, car elle ne peut conduire qu'à attiser les sentiments anti-européens et anti-mondialisation, et plus généralement à exacerber un sentiment de désillusion face à toute possibilité d'une économie juste. Or, c'est précisément ce nihilisme qui nourrit les replis identitaires et le piège social-nativiste. Avant d'étudier les conditions de son dépassement, il nous faut d'abord sortir du cadre français et analyser dans quelle mesure les transformations de la structure des clivages politiques observés dans l'Hexagone se retrouvent dans les autres pays.